Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans la dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent, tous les soirs nous recevons un ou une artiste pour parler avec elle ou lui pendant une heure. Ce soir, Barbara Probst.
Un tango, une danse, un baiser.
Et tu peux taper, péter, péter.
Ça y est, puis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, voilà, ça résume quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec Barbara Probst.
Il s'est passé quelque chose et notre œil cherche des indices. Comme face à une scène de crime, on veut reconstruire la scène. Devant les séries de photographies que vous exposez en ce moment au Bal, à Paris, Barbara Probst, on recompose, on reconstruit un réel dont les images semblent insister pour nous dire qu'il est possible de le comprendre. Une femme saute sur un toit new-yorkais dans une nuit d'hiver. Plusieurs appareils photos minutieusement disposés enregistrent le mouvement et nous en donnent une diversité de points de vue. Alors nous avons le don d'ubiquité démultiplié. Non seulement nous sommes là, ce soir-là, mais nous sommes devant, derrière, sur le côté, en haut. Nous vivons ce qui habituellement est impossible à vivre. Nous faisons comme le tour du réel. Mais ça ne colle jamais tout à fait. Le sentiment d'étrangeté n'en est qu'accentué. Et c'est probablement l'un des intérêts majeurs de ces séries-là. Bonsoir à vous, Barbara Probst, bienvenue. La personne qui chuchote dans votre oreille en allemand s'appelle Florence Roucou-Conan et merci à elle d'être là. Cette exposition s'appelle The Moment in Space et elle est visible donc au Bal jusqu'au 25 août. Alors peut-être dire que ce ne sont pas les premières séries que vous exposez, séries de cette sorte-là, que c'est un dispositif particulier qui porte un nom dans votre travail, Barbara Probst. Ce nom s'appelle Exposure. Est-ce que vous pouvez nous décrire le dispositif et depuis combien de temps vous l'utilisez?
Also die Exposure number one habe ich
Exposure numéro 1.
Anfang Januar 2000 gemacht.
Démarré au début du mois de janvier 2000.
Und damals war das eigentlich noch nicht klar, dass es der Anfang einer
20-jährigen Aktivität war. Je ne savais pas du tout que ça allait durer pendant 20 ans, cette activité. C'était une expérimentation et je souhaitais simplement voir de quelle manière se comporte la réalité par rapport à la photographie. J'ai beaucoup réfléchi, en particulier aux travaux qui avaient précédé Exposure Number One. J'ai beaucoup réfléchi à la photographie même, c'est quoi comme média, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, de quelle manière est-ce que nous allons vers la photographie, et aussi peut-être quelles sont les possibilités qui s'offrent aux photographes pour pouvoir retranscrire la réalité dans une image. Exposure Number One a donc été l'expérimentation grandeur réelle. J'ai donc dirigé plusieurs appareils photo vers un objet à des distances différentes par rapport au modèle, avec plusieurs angles de vue. Et tous les appareils photo ont été déclenchés au même moment. Le résultat de cette expérimentation et aussi expérience, eh bien, ce fut 12 histoires différentes qui pourtant avaient la même base. À cette époque-là, je n'avais même pas du tout trouvé le titre Exposure. Mais j'avais déjà commencé à comprendre que ça allait sans doute être la base d'un travail qui allait s'accentuer dans la profondeur de la recherche. Et ça m'a pris à peu près 6 mois pour pouvoir travailler dessus, l'analyser à distance et comprendre ce contenait ce travail. Et ensuite, j'ai continué, mais en changeant vraiment à dessein l'utilisation de ces images et surtout les modèles. Et ensuite, il y a eu Exposure, donc 2, 3 et 4. Et le titre, ce n'est pas simplement Exposure number 1 ou number 2 ou number 3. C'est aussi la temporalité qui a changé. Ça correspond à un changement. Exposure a un double sens, puisque c'est vraiment le mot exposition d'un point de vue de la technique photographique, le moment de l'exposition, et c'est aussi une façon de se démasquer, de dévoiler. Je dévoile. Pendant de nombreuses années, j'ai compris, toujours avec le recul, ce que je dévoilais, et à chaque fois, j'en rajoute un peu. Mais c'est une manière de dévoiler le moment présent.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle le moment dans l'espace, parce que d'une certaine manière, c'est comme si probablement on s'en approchait de plus en plus de ce moment-là. Est-ce que vous savez ce que vous dévoilez, Baraba Probst, les années passant?
Eigentlich gehen diese verschiedenen Exposures, die sind ja über fast 20 Jahre jetzt,
ungefähr 150 Exposures. Pendant 20 ans, il y a 150 différentes Expositions et Exposures. Qui traite un peu de sujets différents, mais la chose la plus importante, c'est peut-être que je dévoile le fait que je recherche la vérité. Je recherche la vérité, mais il est toujours très difficile de tout dévoiler, même avec la photographie.
Évidemment, et on reviendra justement sur cette recherche de la vérité ou de la réalité ou encore du réel avec vous, Baraba Probst. Mais c'est intéressant de commencer par votre propre interrogation sur le médium que vous utilisez depuis 20 ans, parce que vous ne l'avez pas toujours utilisé. Votre formation est une formation en sculpture. Comment s'est passé le passage, s'il y en a un, et si on peut le décrire de cette manière-là, d'une première pratique à une seconde pratique?
C'est pas vraiment un changement ou passer de l'un à l'autre. C'est passer de la sculpture aux différents objets qui sont dévoilés justement par la sculpture d'abord et qui peuvent aussi être pris par la photographie. Je dirais que la photo que je pratique maintenant, ou plutôt depuis 20 ans, sont des sculptures. Moi, je les conçois comme des sculptures parce qu'il y a une tridimension qui est induite par la photo. C'est comment voir une personne ou un objet en trois dimensions.
Pour moi, eigentlich gar nicht so ein weggehen von der Skulptur.
Je ne m'éloigne pas tellement de la sculpture. Je reste auprès de la sculpture, mais j'ai juste changé le média, le support.
Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous aimez la photo?
Das ist eine gute Frage.
Ah, c'est une excellente question.
Ob ich die Fotografie liebe,
est-ce que j'aime
oder das
la photographie
Foto?
Ou le fait de photographier?
Non, la photographie, pas le fait de photographier.
Ich fotografiere außerhalb meiner Arbeit nie.
Alors, je ne prends jamais de photos en dehors de mon travail. La photo individuelle, le résultat, on va dire, la photographie, ne m'intéresse pas tellement. Moi, ce que j'aime bien, c'est la mise en scène. C'est la scénographie qui est mise en place pour pouvoir produire un travail ou un résultat. C'est ça qui m'intéresse dans la photo.
Et mich interessiert eigentlich die J'adore
la photographie parce que c'est extrêmement complexe, parce qu'il y a beaucoup de choses à analyser à partir de là, et parce que nous sommes entourés par la photo. Alors c'est une question quand même brûlante. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la photographie? Qu'est-ce qu'elle ne peut pas faire? De quelle manière est-ce qu'elle nous entoure? Qu'est-ce qu'elle déclenche chez nous? L'image, ensuite, produite, se trouve au milieu, parce que au milieu, ou entre le photographe qui crée l'image, et de l'autre côté, il y a le spectateur, le regardant, celui qui va voir le résultat. Et bien, entre tout cela, passent des questions. Questions de la perception, de la subjectivité, aussi bien du côté du photographe que de celui qui regarde, mais aussi la fabrication de la subjectivité. Comment est transformée la réalité et rendue dans une image?
Il y avait deux écoles à l'époque, Cartier-Bresson, qui pensait qu'il y avait une photo qui dit tout, et il faut que la photo soit absolument parfaite, composée, etc. Et W. Eugene Smith, qui travaillait le photographic essay. C'est lui qui a inventé ça, plus ou moins. Et moi, je suis beaucoup plus pour le deuxième dans le travail que je fais, parce que je pense qu'une photo peut être très menteur, au fait. Ça peut être compris à toutes sortes de niveaux. Chacun va prendre de cette image ce qu'il en pense, ce qu'il en sent. Tandis qu'une série d'images, et même ça peut être une série très petite, 5 à 8 photos, doit être plus honnête sur le sujet. Enfin, je pense que les photos les plus intéressantes sont les photos où, des fois, où vous comprenez pas exactement ce qui se passe dans la photo. Ça vous fait, en tant que spectateur, spectatrice, poser des questions sur cette image. L'image va au-delà de la page sur laquelle il est imprimé. Et ça nous intrigue et ça nous interpelle. Au même temps, bon, les photos, je pense à Diane Arbus qui a fait des portraits frontales. Il y a rien qui n'est pas compris. Et tout est pas compris dans ces photos en même temps. Il n'y a pas de flou, il n'y a pas de mystère comme ça. Le mystère est dans les gens qu'elle a photographiés. Elle a vu des choses bizarres et troublantes dans quelqu'un qui, le reste de nous, voit comme une personne tout à fait normale dans le Central Park à New York. Elle a vu quelque chose de différent et elle a souligné ça. Et c'est ça le mystère dans ces photos-là. Donc il y a mystère et mystère.
Une archive de Jane et Evelyn Atwood, au micro de Romain de Bec de Lièvre tout récemment, tout début d'année 2019. Barbara Probst, elle parle d'honnêteté, et que finalement, on s'approcherait d'une forme d'honnêteté davantage en produisant des séries d'images qu'en allant vers une image unique. Il se trouve que dans ce travail de 20 ans, avec les exposures, vous produisez des séries d'images. Est-ce que vous diriez que vous allez aussi dans ce sens-là d'une recherche d'honnêteté?
Die Wahrheit?
Ehrlichkeit mehr als Wahrheit.
Aha. So habe ich das noch nie an Ehrlichkeit.
Je n'avais jamais encore pensé à cette honnêteté parce que ça contient presque une dimension morale et la photographie n'est pas morale du tout. Ou moralisatrice. Je vous l'ai dit déjà tout à l'heure, bien sûr que je recherche la vérité, mais ce n'est pas tout à fait la même chose que honnêteté. Parce que le photographe fait bien comme il veut. Il prend une image, un instantané du monde. Et c'est aussi un mécanisme qui est chimique, technique. Et ensuite, il obtient le résultat qui est donc l'image, la photographie. Je ne sais pas s'il est intéressant de parler de l'honnêteté. Parce que ce n'est pas tout à fait de cela dont il s'agit. Une photo honnête, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Je pense que c'est dans nos têtes. C'est à nous, spectateurs, regardants, de donner un certain degré d'honnêteté à la chose par rapport à ce qu'on est nous-mêmes. Par exemple, le gouvernement américain utilise des photographies pour pouvoir justifier d'une attaque sur l'Iran. Je trouve extrêmement intéressant que les films jouent encore ce rôle.
Obwohl wir eigentlich alle wissen, dass das sowas ganz künstlich hergestellt
wird. Même si nous savons tous très très bien que c'est quelque chose qui peut aussi être fabriqué de manière artificielle.
Aber ich denke, dass was in den Reihen passiert im Vergleich zu dem Einzelbild
dans les séries, ist, par rapport aux images isolées,
sicherlich mehr den Anspruch hat, zu sagen,
il y a peut-être plus d'exigence de dire c'est ainsi que cela s'est fait ou c'est ainsi que cela s'est passé. Parce que à partir du moment où je montre plusieurs images, j'ouvre ce moment-là et je montre donc plusieurs possibilités. Donc chaque image dit c'était comme cela. Mais c'est le même moment qui est pris en compte, donc il y a une contradiction inhérente. Et c'est comme cela aussi que se dissout peut-être cette perception de l'honnêteté ou de la vérité.
C'est quelque chose qui vous inquiète ou qui vous concerne ou qui vous titille, Barbara Props, de savoir comment les choses se fabriquent, et probablement davantage encore quand il s'agit de la fabrication des images. Vous tenez à savoir comment ça s'est fait et à montrer éventuellement aux spectatrices et spectateurs, comment vous les faites?
Diese Reihen zeigen ja oft, wie sie ihre eigene Herstellung.
Les séries montrent aussi, de quelle manière elles ont été produites. C'est-à-dire que l'on voit les appareils photo, on voit les décors, quelquefois même on voit les photographes, c'est-à-dire les personnes qui déclenchent. Donc oui, il y a ici un dévoilement. Ça assure une transparence concernant le support. Mais ce n'est pas mon message principal. Ça ne me préoccupe pas du tout. J'ai envie de poser les cartes sur la table. C'est un petit peu, et j'ai envie de dire c'est comme ça.
Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur votre formation et sur l'endroit où vous apprenez, je ne sais pas comment on pourrait dire, à faire de l'art, enfin l'école dans laquelle vous avez passé du temps, Barbara Props? Souvent, on dit que c'est une école sur laquelle Bernd et Ila Becher ont eu beaucoup d'influence, peut-être pour rappeler le travail de ce couple d'artistes. Ils ont produit des séries photographiques assez systématiques sur un patrimoine industriel, des séries en noir et blanc, exposées de la sorte, qui, comme ça, rendaient compte du temps qu'ils passaient dans certaines régions à faire une sorte d'inventaire. Est-ce que c'est une pratique qui a eu de l'influence sur la manière dont vous avez ensuite abordé la photographie?
Je
ne suis restée que pendant une année chez Bernd Becher à Düsseldorf. Et déjà, à l'époque, je travaillais très différemment que la plupart de ses élèves. Ce qui m'importait plus, c'était... Enfin, j'étais curieuse. Je voulais savoir ce qui se passait dans cette classe. Parce que c'était une façon totalement différente de faire et de voir les choses dans le monde. La classe Becher avait quelque chose d'unique. Et même dans toute cette académie, d'ailleurs, des beaux-arts à Düsseldorf, comparé à Munich, j'ai étudié pendant 5 ans à Munich et seulement une année à Düsseldorf. À Munich, il y avait beaucoup plus de liberté. En fait, on pouvait toujours faire ce que l'on voulait et on nous donnait beaucoup de temps pour le faire. À Düsseldorf, on était déjà un petit peu plus sous contrainte, on regardait déjà un petit peu du côté du professionnalisme et puis de la carrière, des galeries. Pour moi, le temps n'était pas encore venu de devenir professionnel, donc moi je voulais encore explorer la destination peut-être de mon futur travail. Et c'est plutôt vers la fin vraiment de mes études que la révélation s'est faite. J'étais plus attirée par la photographie et c'est là que j'ai commencé à travailler vraiment. Mais ça a encore pris 10 ans avant que je fasse Exposure Number One. Et ça a été un long chemin d'ailleurs pour y arriver.
Qu'est-ce que ça veut dire que de savoir qu'on peut devenir artiste professionnel, Barbara Probst? Qu'est-ce que vous avez senti? Qu'est-ce que vous vous êtes dit?
En tant qu'étudiant?
Au moment où vous vous dites, bon d'accord, c'est possible.
Eigentlich machbar ist es ja immer.
Alors, c'est toujours faisable. Après, il faut se poser la question de la façon dont on souhaite vivre. Est-ce qu'on veut vivre avec très très peu d'argent, par exemple? Et là, on peut toujours être artiste. Mais pendant combien de temps est-ce qu'on a envie de vivre comme cela? C'est une question. En 2006, depuis 2006, je vis de mon travail.
Et là,
Je me suis dit, je n'ai plus besoin de travailler pour faire mon travail. Et à partir de ce moment-là, oui, on a l'impression d'avoir un métier. Alors, en 2006, j'avais déjà
42.
Ah non, j'avais 42 ans déjà.
Donc, ce n'était pas si tôt que ça.
Non, pas du tout.
Aber das war gut.
Mais c'était bien, parce que c'est un développement lent, c'est une très bonne base.
On va revenir à la question de la réalité, du réel, de la vérité, grâce au philosophe Clément Rosset.
L'impression de vivre dans la reproduction et le faux, hein, si vous voulez, par les moyens audiovisuels modernes, la presse, la télévision et pourquoi pas la radio, c'est une impression qui est particulièrement aiguë aujourd'hui pour deux raisons. D'abord parce que nous sommes vivants pour la vivre et que c'est toujours plus aigu quand on est vivant. Et ensuite parce qu'effectivement il y a des moyens de diffusion qui, comme toute chose, ont fait des progrès extraordinaires. Mais cette impression-là, tout le monde l'a eue depuis le commencement des temps. Vous trouverez chez Platon, dans le mythe de Goethe, le thème selon lequel l'homme vit dans la copie, c'est-à-dire dans la reproduction par l'écriture et non plus dans la réalité. Et d'ailleurs, toute la philosophie de Platon, c'est bien une tentative de retrouver le réel derrière l'ombre du double, n'est-ce pas? Il y a une autre question, c'est que, si vous voulez, le problème du rapport entre le double et l'original. On se dit, Platon dit, Bergson dit, vous dites, je dis. Le double, le fait de vivre dans le double, est un écran qui occulte l'original. Par exemple, la plupart des gens qui lisent la relation avec des photos d'un très grave tremblement de terre ou d'un événement quelconque, la mort du pape ou n'importe quoi, eh bien, loin de d'avoir, grâce à ça, une idée quant à la réalité qui est la mort du pape, qui est le tremblement de terre, qui est encore tout ce que vous voudrez, au contraire, se repaissent d'une sorte d'image, de duplication, de représentation de la chose, qui fait que la chose elle-même est complètement occultée. Et ces mêmes gens qui ont lu le récit du tremblement de terre, s'ils se trouvaient dans un tremblement de terre, ils se diraient, mais c'est pas du tout, c'est vraiment autre chose. Alors j'étais pas préparé à voir ça, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord sur ce point. Ce qui définit justement l'original, c'est qu'il ne peut pas être doublé. C'est qu'il ne peut pas être reproduit, imité, représenté. La représentation, c'est le double.
Clément Rosset, 1981, dans Les Nuits Magnétiques sur France Culture, qui dit que finalement on ne peut pas vivre dans le réel simplement dans son double, en tout cas que la représentation de son réel ne nous permet pas de l'atteindre, que la représentation du réel est son double. Alors vous dites depuis le début de cet entretien, Barbara Probst, que c'est pourtant cette question-là qui vous intéresse. Comment on s'en approche? Comment on s'approche du moment? Comment on peut déplier le moment pour le regarder par tous les endroits possibles? Alors c'est vrai que je décrivais ma simple impression de spectatrice en rentrant dans l'exposition, qui était que immédiatement, face à vos séries, je cherche le réel. Enfin, je cherche à recomposer quelque chose qui me semble être l'événement, comme si la série agissait en indice de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est comme ça que vous les pensez? Des photographies comme des indices du réel?
Ja, Indizien ist vielleicht ein gutes Wort.
Alors, les indices, c'est un bon mot. Parce que ce n'est rien de plus que cela. Je pense que mon travail montre que plus il y a de représentations d'un moment, plus j'ai la possibilité ou plus j'ai de champs d'y inclure la réalité. Parce qu'on voit ces images les unes à côté des autres et on voit également la contradiction qui est exprimée par ces images qui racontent une histoire ou leur propre histoire. Et je pense que c'est justement là-dessus que se concentre mon travail. Que la photographie amène à la disparition de la réalité. Prenons un exemple. Vous regardez une photo qui représente quelqu'un qui ne vit plus, mon père. Par exemple, je regarde cette photo depuis des années. Et maintenant, je me souviens plus que de la photo et non pas de mon père. C'est ça que crée la photographie ou que provoque la photographie. C'est qu'elle se trouve vraiment entre nous et la réalité. Et qu'elle, c'est peut-être un empêchement vers la réalité.
Est-ce que ce que vous photographiez a de l'importance?
C'est völlig unwichtig.
Absolument aucune importance. Mais bien sûr, je suis obligée de photographier quelque chose puisque je veux photographier.
Mais
ce qui m'importe le plus et de plus en plus, c'est ce qui se passe en fait derrière ou avec l'appareil photo plutôt que ce qui se trouve devant l'objectif. Ce que le photographe fait avec l'objectif, quelles sont les décisions qu'elle prend pour pouvoir habiller une robe déjà existante.
Donc quand vous disposez un verre, une bouteille ou une sorte de nature morte, c'est un outil de réflexion pour vous, vous vous en fichez éperdument de photographier une bouteille, un verre d'eau ou que sais-je. C'est pas le sujet en fait, votre sujet, Barbara Probst.
Non, je choisis. Je choisis avec discernement les objets, tout de même. Et j'essaye de faire des images qui ont une beauté intrinsèque ou qui expriment une force parce que j'ai envie d'intégrer celui ou celle qui va regarder cette image. D'ailleurs, certains travaux attendent d'être regardés. Mais encore faut-il pouvoir y pénétrer dans ce travail. Donc, le choix des modèles, des objets, des lieux et aussi de l'habillement, tout cela, c'est, je vous le dis, c'est fait avec discernement. C'est toujours à propos et ça a à voir avec la composition de l'image. Mais ce ne sont que des objets qui vont servir un objectif à double sens. Je ne veux pas simplement les poser là, je veux juste que ça représente à la fin quelque chose d'autre.
Quand vous dites, Barbara Pross, que ces images attendent d'être regardées, est-ce que vous le dites dans le sens où elles seraient comme activées par notre regard ? Que tant que nous ne sommes pas là, en fait, la série d'images, elle ne marche pas.
Godard a déjà,
Jean-Luc Godard, en 1959, dans À bout de souffle, avait déjà introduit ce séquençage. Il sortait des images fixes, presque fixes, qui devaient être remplies par le spectateur. En fait, c'était ce qu'on appelle des jump cuts, et ça permettait presque de rentrer dans l'esprit de la personne qui était représentée à l'écran. Mais c'était le spectateur qui rentrait dedans. Et il disait que le film était complété par le spectateur, que sans le spectateur, il n'y avait pas d'ensemble. Si l'on regarde un film de Hitchcock, le film est complet. On n'a pas vraiment besoin du spectateur. Et c'est exactement ce que je recherche aussi dans mon travail, c'est-à-dire que la personne qui va regarder la série est un élément de la série. Et c'est le spectateur, le regardant, qui va compléter le travail.
Par les temps qui courent, Marie Rucheux avec Barbara Probst.
Rectangle.
Il y a des descriptions dans mes livres qui semblent relever de la photographie, mais la plus grave erreur serait de le croire. La photographie est un art prétendu exact, c'est-à-dire qui n'est pas fait pour déformer ce qu'il montre, sauf la déformation qui consiste à représenter dans deux dimensions ce qui en réalité en a trois. La photographie est censée rendre un compte objectif de la réalité. Et le mot objectif a été prononcé effectivement à propos de mes livres par un critique, mais qu'il entendait dans un sens très différent, non pas impartial, mais tourné vers l'objet, tourné vers le monde extérieur. J'ai l'impression que même quand il y a beaucoup d'objets dans mes livres, ils ne sont pas du tout objectifs au sens ordinaire du mot, ils sont parfaitement subjectifs. Ils sont toujours vus par quelqu'un et par quelqu'un qui les déforme, qui les voit avec ses yeux humains, mais avec sa passion. Et les objets auxquels il s'attache sont presque toujours les objets mêmes de sa passion. Ce n'est jamais un œil extérieur, l'œil de Dieu par exemple, qui regarde le monde, c'est l'œil de l'homme en train de vivre ce monde, en train de vivre sa passion, et par conséquent ne se souciant pas du tout d'objectivité.
1960, la voix d'Alain Robbe-Grillet, RTF, une archive RTF, pour parler avec vous, Barbara Probst, justement, éventuellement de votre rapport à la littérature. Vous avez cité, juste avant cette archive et cette musique, Jean-Luc Godard et Hitchcock aussi, on y reviendra, c'est intéressant. Mais peut-être aller dans le champ de la littérature, parce que la littérature nous ouvre le champ de la description. Est-ce que vous diriez, pour poursuivre la réflexion avec vous sur votre propre usage de la photographie, qu'il y a quelque chose de cet ordre-là ? Que non seulement il y a de la narration, mais que votre puissance de narration passe par un désir de description ?
Aber eigentlich wird ja nicht eine Geschichte beschrieben, sondern...
On ne décrit pas une histoire. Il y a un modèle ou un motif, mais il y a différentes histoires qui tournent autour de ce modèle. Et ces histoires sont contradictoires, quelquefois. Mais je ne comprends pas bien votre question.
Bah, en même temps, vous la comprenez pas, mais vous y répondez plutôt assez bien. C'est-à-dire que il y a dans le fait de raconter des histoires. Non, on va dire pour raconter des histoires. Robbe-Grillet dit qu'il en passe par la description. Est-ce que la manière dont vous procédez vous pour aussi raconter toutes ces histoires serait comparable à la description en littérature?
Stimmt, weil ich denke die Kamera ist auch ein Mittel.
Parce que je pense que l'objectif, enfin c'est-à-dire l'appareil photo, est aussi un moyen ou un support de la narration, tout comme la parole. Avec l'appareil photo, il y a en plus tout ce que nous avons dans notre tête et que ça, c'est relié à la réalité. Et comme le dit Robbe-Grillet, il y a là interférence avec la réalité, l'objectivité. Mais on est totalement éloigné de l'objectivité.
Et
je ne sais même pas si l'objectivité existe. Ça veut dire quoi ?
Was mich eigentlich auch in der Arbeit umtreibt, ist
ce qui me préoccupe aussi,
das ist nicht nur die Kamera,
au cours de mon travail,
oder die Bilder nicht nur eine
c'est que les images ne montrent pas simplement un point de vue photographique, mais sont aussi représentatives de nous et nous montrent de quelle manière différente nous regardons le monde.
Et
voilà, les regards différents qui sont posés sur le monde alors que nous regardons la même chose. Ce qui me plaît dans ces séries, en raison de la simultanéité, c'est que la position du regardant a toujours la même valeur. Il n'y a pas de, puisque nous parlons de l'objectivité, il n'y a pas un regard qui sera plus subjectif qu'un autre ou plus objectif qu'un autre.
Et donc, pour aller dans votre sens et reprendre les mots de Alain Robbe-Grignet, on échappe à un œil qui serait l'œil avec un grand O, un œil de Dieu. Il n'y a que des petits yeux et des petits yeux subjectifs. C'est en cela que vous disiez en début d'entretien, Barbara Probst, que ce qui vous intéresse, c'est la fabrique de la subjectivité.
Ja, aber wir sind ja alle sozusagen Fabrikanten der Subjektivität.
Oui. Et nous sommes tous fabricants de la subjectivité. Chaque moment, finalement, de notre vie nous permet de regarder, de voir, de juger, de reconnaître. Et c'est forcément guidé par notre propre subjectivité, puisque c'est notre regard qui détermine ce que nous voyons. C'est influencé par notre vécu, notre pensée, notre psychologie, notre histoire de vie. Tout cela, ça interfère lorsque nous regardons quelque chose. Il suffit de regarder cette bouteille d'eau, tout interfère et tout a une importance et tout va former la vision que nous avons de cette bouteille d'eau.
Oui. Alors c'est peut-être ma subjectivité qui rentre en jeu, mais comment accueillez-vous le récit que je fais lorsque je dis que je suis presque en train de faire une enquête sur une scène de crime au milieu de vos séries d'images, Barbara Probst, en ce moment exposée au bal à Paris. J'ai eu une petite, un petit revival du jeu Cluedo, je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça en Allemagne, mais en gros on doit recomposer des scènes de crime, on doit récupérer des indices, comme fabriquer des natures mortes de scènes de crime. C'est aussi un mot qu'on peut utiliser à propos de votre travail comme un travail très chirurgical. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces remarques ?
C'est une perception.
Parmi une autre.
Comme une autre, et...
Non,
les différentes images qui composent une série sont effectivement des indices, vous l'avez dit tout à l'heure, qui composent un tout. Et ça aurait éventuellement à voir avec ce jeu que vous mentionnez. Donc, il s'agit en fait de reconstituer un crime. Et on regarde des indices, mais chacun a vu quelque chose d'autre. Et ces indices peuvent être en contradiction les uns avec les autres. Et finalement, à l'issue de l'affaire, on en sait encore moins qu'au début. Alors qu'au début, on ne savait pas grand-chose, mais on imaginait déjà.
Quand même, il y a un côté ludique dans certaines de ces séries, Barbara Probst. Vous avez aussi un amusement à nous perdre.
Oui. Der Spaß kommt eigentlich für mich im Atelier, wenn ich daran also
le jeu pour moi shoot, il arrive dans l'atelier, c'est-à-dire après avoir pris ces différentes photos après le shooting, je regarde de quelle manière se comportent les photos les unes avec les autres, tout ce qui précède. C'est vraiment un travail minutieux de préparation qui est plaisante. Mais on reste très très concentré sur la prise de vue qui se fait ensuite très rapidement. Ça se fait en une heure, en deux heures. On met très peu de temps à terminer ce travail de prise de vue. Et vraiment le beau travail arrive après. C'est-à-dire dans l'atelier, lorsque lorsque j'organise, si je puis dire, ces photos, lorsque vient la mise en œuvre. Le travail d'avant est très complexe. Ce qui est intéressant, c'est au tout début, lorsque je commence à appréhender d'un point de vue intellectuel la série ou la chose ou le travail.
Ce qu'on voit en ce moment exposé au bal est plutôt de l'ordre du grand format. On va écouter le peintre Bernard Buffet en 1967 parler des grandes toiles.
Oui, j'aime beaucoup les grandes toiles. Ça vient d'une, je ne sais pas, enfin, d'un mélange de choses. Enfin, il y a un jeu, toujours il y a un jeu dans une grande toile qui est plus difficile que dans une toile moyenne. C'est un peu la difficulté qui est amusante. Au début du XXe siècle, on est dans le tableau de Chevalet. Oui. C'est tout le tableau de Chevalet. Les gens étaient peut-être un peu fatigués de toute l'époque de 1850 où, effectivement, les peintres faisaient des grands tableaux énormes. Vous prenez tous les Courbets, ils sont très très grands. Alors ensuite, tout d'un coup, ils ont eu une réaction, ils ont fait tout petit. Des impressionnistes un peu.
Et on peut dire d'ailleurs que depuis cette époque, le monumental a non pas disparu de la peinture, mais est devenu une rareté en tout cas.
Oui, et puis le... C'est même la vision de la peinture qui a changé. Parce que les impressionnistes, que moi j'aime pas du tout, ont donné tout d'un coup un côté de l'instant. Il fallait prendre la lumière à la seconde, enfin, chose très idiote. Ils ont perdu quoi, l'architecture du tableau.
Il y a un défi chez vous dans cette volonté de prendre de grandes surfaces ou c'est tout à fait naturel?
C'est naturel parce que j'aime ça, mais il y a aussi une difficulté, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Il y a deux plus grandes difficultés que sur la petite toile?
Ah oui. Oui, demander à des peintres de faire des grandes toiles, il n'y en a pas beaucoup.
Barbara Props, juste avant Yoko Ono, c'était la voix du peintre Bernard Buffet dans une archive de 1967 qui parlait non seulement de sa petite détestation pour l'impressionnisme et l'idée idiote selon laquelle il s'agirait de capter le moment, mais d'autre part, de l'art que nécessitent les grandes toiles. Alors je disais qu'en ce moment vous exposez des grands formats. Qu'est-ce qui vous pousse à ce choix-là? Qu'est-ce qui vous intéresse dans les grandes photographies?
Großflächige Fotografie hat der mit Malerei sehr viel zu tun.
Je pense qu'il y a une corrélation entre les grandes photographies et les grands formats, Malerei les grands tableaux.
Des großen Tableaus. Es interessiert mich nicht so sehr, obwohl
en fait, ça m'intéresse pas particulièrement. Même si oui, il y a de grands travaux, de grandes photos. Mais certains de mes travaux sont grands parce qu'ils prennent beaucoup de place. Mais en fait, les images elles-mêmes ne sont pas si grandes que ça. Mais voilà, en tant que série, exposée dans une salle, ça prend beaucoup d'espace. Mais on pourrait aussi... On peut aussi les accrocher dans les coins ou sur un mur. Pour répondre à la question pourquoi est-ce que mes photos sont si grandes, c'est parce que j'ai envie que celui ou celle qui va regarder ce travail rentre dedans. Puisqu'on a dit que le regardant était absolument indispensable pour transformer cet objet et pour en faire quelque chose de concret, eh bien, je l'inclus dans mon travail. Je pense que c'est à comparer à une chorégraphie pour le spectateur qui devient presque acteur, qui rentre dedans, dans l'image et qui va pouvoir y bouger, qui va pouvoir bouger d'une photo à l'autre, qui va aussi bouger dans la salle pendant qu'il ou elle regarde. J'ai l'impression qu'on peut regarder ces séries même pendant des années, parce qu'on peut découvrir vraiment beaucoup de choses à condition d'y entrer.
Oui, parce que ça induit quand même une échelle de corps assez particulière. Quand, par exemple, je pense à cette série-là où on a des gros plans sur des brodeaux, citron, un pied, un sous-table, une main qui apparaît tronquée, encore un autre bro, mais cette fois en faïence. Je ne sais pas comment dire, c'est comme si on était nous aussi sous la table en fait. Enfin, nous aussi allongés par terre, il y a des bouts de pied. Comme si les morceaux de corps pouvaient très bien être les nôtres. Et ça agit nécessairement sur notre regard. Vous disiez tout à l'heure que ça vous intéresse de réfléchir à la fabrique de la subjectivité. Mais cette échelle-là, en tout cas moi, ça m'emmène nécessairement à regarder vos photographies, Barbara Probst, autrement que si c'était du 10 cm par 10 cm.
Ja, also die Körperteile in den Stillleben, die sind ja
dans les natures mortes, les parties de corps sont soit à taille réelle, soit plus grande.
Gibt es da eine Identifikation?
Alors forcément, il y a une identification possible. Je crois même qu'il y a. Alors c'est mon épaule, hein, c'est mon pied. Mais il y a une image qui a été faite de la manière suivante, c'est-à-dire que ma jambe a été prise en photo par un appareil photo, mais qui n'était pas sur un pied, de manière à ce qu'on puisse ressentir aussi le corps du et de la photographe.
Ce que vous dites, c'est que ces grands formats ont aussi ou appellent aussi notre imaginaire de regardeur et de regardeuse du côté de la peinture. Et moi, par exemple, bizarrement, ça m'a emmenée vers des petits formats de Morandi, de magnifiques natures mortes, alors qu'on est vraiment dans un endroit très différent. Mais ce que vous dites à l'instant, des morceaux de corps, des manières de se positionner, fait aussi penser au cubisme. Quelle est votre relation avec cette histoire de la peinture, Barbara Probst?
Je
regarde beaucoup de peintures. Je contemple. J'aime beaucoup la peinture de la Renaissance, que je trouve très intéressante parce que j'aime bien voir la disposition des lieux dans la peinture de la Renaissance et de quelle manière sont disposés les personnages dans ces tableaux. Les natures mortes
eigentlich die 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 letzten die
en, en tout cas
wie sagt man die die kürzeste die jüngsten Arbeiten in der
les travaux les plus récents qui sont montrés dans cette exposition sont en effet les natures mortes. Et effectivement, c'est d'une certaine manière, c'est très enjoué et c'est très, ça colle à la peinture.
Et
au moment où au moment où j'ai fait cette composition, j'ai pensé
à Kiriko, je pense.
J'ai pensé à Kiriko, de par la couleur et la composition.
Merci beaucoup Barbara Probst et merci à vous Florence Roucou-Conan pour la traduction. Je rappelle que votre exposition The Moment in Space sera visible en ce moment au bal et jusqu'au 25 août, c'est à Paris. Le génie de Otis Redding pour terminer la semaine. À la prise de son, c'était Jordan Fuentes. À la réalisation, Lise-Marie Barré. Un grand merci à Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Marianne Chassor et Valentin Rémy qui m'aident à préparer et penser cette émission tous les jours. Dans un instant, le journal de 22h sur France Culture et quand vous voulez, franceculture.fr à la page de Parler Ton Qui Court. À lundi.